Ça commence mal.
C'est pas Audrey, c'est Aude. On voudrait présenter quelques résultats d'un projet de recherche exploratoire que nous avons mené dans le cadre du PIRV, c'est-à-dire du Programme interdisciplinaire de recherche sur ville et environnement, donc qui est un programme CNRS et ministère de l'écologie. Ce projet, on l'a intitulé « Climat et mode d'habiter dans le périurbain toulousain ». Et c'est un projet interdisciplinaire qui associe à la fois des personnes, des chercheurs de sciences entre guillemets dures et de SHS, notamment donc un laboratoire de Météo France, des géographes de l'environnement, des chercheurs de géographes, sociologues et anthropologues du LIST, et puis des chercheurs de l'école d'architecture de la ville de Toulouse. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'on entend par mode d'habiter ? Donc, selon nous, cela renvoie, enfin, selon nous et d'autres, et dans la littérature, cela renvoie donc à la spatialité typique des individus et avec une double dimension, donc à la fois les relations que ces individus entretiennent avec la matérialité de l'environnement urbain, mais aussi aux représentations qui structure ces relations et les pratiques en lien avec des systèmes d'opportunités et de contraintes dans lesquels les individus se trouvent. Donc on insiste sur cette double dimension. Ensuite, pourquoi travailler sur le périurbain ? Donc ceux qui connaissent Toulouse savent que ce mode donc, est très... emblématique donc de la croissance urbaine de Toulouse et surtout c'est aussi un modèle de croissance urbaine qui est très stigmatisé d'un point de vue environnemental. Donc au-delà de cet objectif, l'idée c'est de dépasser finalement l'approche relativement bien balisée hein, de l'îlot de chaleur pour essayer d'observer un espace qui est considéré a priori comme homogène du point de vue climatique. Alors, le questionnement de départ vient d'une interpellation en fait des climatologues s'adressant à des spécialistes de la ville pour essayer de comprendre en quoi des hétérogénéités climatiques qu'ils arrivent donc à mesurer et à déceler à l'échelle urbaine peuvent-elles s'expliquer par des productions, des dynamiques et des pratiques urbaines. À partir de ce questionnement initial, un dialogue interdisciplinaire a permis finalement d'enrichir le questionnement en considérant qu'il ne s'agit pas simplement relations de type impact, mais plutôt d'interactions entre variabilité climatique et mode d'habiter. D'autre part, l'idée était d'interroger finalement la manière dont s'articule ce qui est de l'ordre des interactions objectivables, mesurables, et ce qui est de l'ordre des perceptions et des représentations climatiques. Et enfin, un parti pris très fort d'un point de vue méthodologique, c'est d'introduire une dimension pluriscalaire dans l'observation et l'analyse de ces interactions que l'on observe. Alors, rapidement, je passe sur cette diapo pour vous donner simplement une idée de cette variété des échelles d'observation, depuis l'échelle macro qui correspond globalement à l'échelle de l'agglomération, l'échelle méso qui correspond à l'échelle du quartier, et jusqu'à l'échelle micro qui est en fait, là on est à l'échelle de la rue. Une présentation de l'organisation générale du projet. Le projet essaie donc d'articuler ces trois échelles, depuis l'agglomération jusqu'à l'échelle de la rue, et essaie d'articuler très fortement des approches disciplinaires avec des moments de croisement interdisciplinaire très forts. Donc, à l'échelle macro, on a commencé par faire des analyses de type climatique, morphologique ou paysagère et socio-économique qui ont permis de sélectionner deux zones ateliers hein, sur le périurbain toulousain, pour lesquelles nous avons défini un protocole d'observation commun. Et ensuite, donc à cette échelle-là, à l'échelle méso et à l'échelle micro. Nous avons reconduit à nouveau, donc, selon ce protocole, des analyses de type paysager, climatique et des analyses qui portent sur les modes d'habiter, de manière à croiser en fait ces différentes analyses et avoir donc un certain nombre de résultats sur les interactions entre climat et paysage urbain d'un côté et climat et mode d'habiter de l'autre. Je passe la parole.
Alors, le point de départ de ce travail a été l'analyse des hétérogénéités climatiques à l'échelle qu'on a appelée macro, c'est-à-dire l'échelle de l'agglomération toulousaine. Et pour cela, donc, on a étudié la structure de l'îlot de chaleur urbain sur Toulouse en se basant sur des données déjà disponibles qui avaient été collectées lors d'une campagne de mesure réalisée sur Toulouse en 2004-2005, qui est la campagne Capitoul. Donc, on disposait, vous l'avez sur la carte ici, d'un réseau de stations fixes, donc 26 stations fixes, mesurant la température et l'humidité de l'air dans les rues à différents endroits de l'agglomération toulousaine. Et donc, le travail qu'on a fait a été d'étudier, à partir d'une station de référence située en plein centre-ville de Toulouse, les différences climatiques qu'on pouvait observer avec les stations situées dans l'agglomération toulousaine. Donc, vous avez un exemple sur l'histogramme en bas à droite, avec la station de Saint-Aurens, qui est située au sud-est de Toulouse, si on le voit ici, là, voilà. Et donc, la station était située dans un environnement périurbain. Et donc, on a calculé à l'échelle, donc ici je montre l'exemple de la période estivale, on a calculé les différences de température entre cette station-là et le centre-ville de Toulouse, et on observe systématiquement un îlot de chaleur urbain donc qui correspond ici aux différences négatives de température, c'est-à-dire que la station de Saint-Aurens est plus froide que le centre-ville de Toulouse, avec des différences en milieu de journée qui peuvent aller jusqu'à 2 degrés et jusqu'à 4 degrés durant la nuit. Alors, le deuxième aspect a été de réaliser une analyse paysagère à cette même échelle, c'est-à-dire que pour chacune des stations du réseau Capitoul, l'équipe de géographes a analysé les grands ensembles paysagers dans un environnement immédiat autour des stations, donc une zone de 500 mètres de rayon autour de chaque station. Et pour cela, deux méthodologies ont été utilisées. D'une part, une méthodologie de type analyse experte, donc une analyse de terrain, et une deuxième approche plutôt quantitative à partir d'analyses orientées objets, d'images satellites et de photographies aériennes. Donc vous avez un exemple sur la photo sur votre droite. Et donc une classification a été obtenue. Alors, à partir de l'analyse de terrain, donc c'est une classification qui s'est basée sur le croisement de l'atlas du paysage et de la baie des Cartaux, et à partir de l'analyse des images satellites, une classification basée sur les Urban Climate Zones qui ont été proposées par Tim Hawke, qui est un climatologue canadien assez réputé. Et donc c'est intéressant de constater que ces deux approches, donc basées sur des méthodologies différentes, donnent finalement des classifications très comparables. Donc vous l'avez ici représenté. Donc ce sont les mêmes stations que j'ai présentées précédemment, mais avec un code couleur qui représente les différents ensembles paysagers qui ont été identifiés. Donc les carrés rouges correspondent au centre urbain toulousain, notamment en jaune vous avez les zones pavillonnaires, en violet les zones industrielles, commerciales, en vert les zones de type agricole, etc. Et donc nous dans le projet on s'est concentré sur, étant donné qu'on voulait vraiment s'intéresser aux zones pavillonnaires, on a sélectionné, donc elles sont déjà notées ici, deux zones d'études, Blagnac et Saint-Aurens, mais je vais y revenir là-dessus juste après. Donc, à partir de ces deux analyses climatiques et paysagères, on a essayé de croiser ces données. Et donc, ici, vous avez une représentation par type. Donc, chacune des stations Capitoul a été associée et représentée par rapport à son ensemble paysager. Et on peut observer qu'on a des comportements climatiques qui sont très distincts selon les ensembles paysagers, essentiellement pour le centre-ville de Toulouse, donc une zone très urbanisée. Donc ce sont les deux premiers carrés box plots en rouge. les zones de faubourg, qui sont des zones très urbanisées, mais avec une présence de végétation un petit peu plus importante, mais qui restent quand même des environnements très chauds. Et ensuite, tous les autres types paysagers, donc l'industriel, les faubourgs, les zones pavillonnaires, les zones aéroportuaires ou agricoles, ont des signatures climatiques qui ne sont pas très distinctes d'un type paysager à l'autre. Et ce qui est intéressant à remarquer également, c'est que pour certains types paysagers, on peut avoir des signatures climatiques qui sont très variables. Donc, par exemple, dans une zone pavillonnaire, on peut voir qu'on a des différences de température qui peuvent atteindre plusieurs degrés. Donc, on n'a pas de signature climatique vraiment significative. Alors, la deuxième étape, donc après l'analyse à l'échelle macro, ça a été de sélectionner, comme on l'a dit, deux zones ateliers situées dans des zones pavillonnaires. Pour cela, on a interagi donc entre les différentes équipes, donc vraiment une réflexion interdisciplinaire basée sur le croisement des informations tirées des analyses climatiques, socio-économiques et morphologiques. Et finalement, on a fait le choix de deux sites périurbains, donc Blagnac et Saint-Aurens. Pourquoi ces deux sites ? D'une part, d'un point de vue paysager et socio-économique, ils étaient relativement comparables, donc des grands ensembles paysagers semblables et des profils de population qui étaient assez similaires. Et par contre, d'un point de vue climatique, donc les analyses à l'échelle macro ont montré que Saint-Aurens et Blagnac avaient des comportements assez distincts. Donc Saint-Aurens, qu'on caractérise comme un périurbain froid, c'est-à-dire qu'il était systématique. La différence de température entre Saint-Aurens et le centre-ville de Toulouse était systématiquement plus importante que celle observée entre Blagnac et le centre-ville. Alors, pour étudier ces deux zones d'atelier, nous avons mis en place un protocole d'observation dans le but de documenter donc pour chacune de ces zones, d'une part les hétérogénéités climatiques, d'autre part la variabilité paysagère et enfin les perceptions, les représentations et les pratiques climatiques des populations locales au sein de ces zones d'études. Alors la méthodologie se compose de trois parties. Une première partie qui a été une campagne de mesure, donc une campagne expérimentale que nous avons réalisée avec des vélos instrumentés. Donc vous avez un exemple ici. Donc sur le vélo, on avait un mât de mesure avec une station mesurant la température et l'humidité de l'air et également la localisation du point de mesure avec un GPS embarqué. Associé à ça, on a également fait des relevés in situ pour caractériser les unités paysagères dans les zones que nous avons étudiées. Donc les unités paysagères à l'échelle de la centaine de mètres et également à une échelle encore plus fine, les éléments paysagers, mais j'y reviendrai par la suite. Et enfin, donc l'équipe de géographes sociologues a réalisé des entretiens semi-directifs auprès d'un échantillon de population. Alors, juste un exemple de circuit que nous avons réalisé pour la campagne de mesure. Donc là, vous avez une photographie aérienne de Saint-Aurens avec le carré jaune au centre qui représente la station fixe de mesure qui a été placée à l'endroit où était déjà la station Capitoul lors de la campagne. Et vous avez en noir le tracé du parcours qui a été réalisé à vélo. Et donc l'idée, c'était de parcourir le plus d'endroits possible dans la zone d'études afin de caractériser des zones assez différentes d'un point de vue paysage, d'un point de vue type de surface ou densité de bâti, etc. Alors, au niveau de l'analyse paysagère, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau macro, on avait chaque station était caractérisée par un grand ensemble paysager unique. Donc, Saint-Aurens, Blagnac étaient caractérisées comme des zones pavillonnaires. Mais si on va regarder à une échelle plus fine, au niveau de notre zone d'étude, donc, qui est un rayon de 500 mètres Ici, vous avez le cercle qui est représenté ici, est un rayon de 500 mètres. On voit qu'à l'intérieur de cette zone, on peut avoir une variabilité assez importante des unités paysagères. Et donc, l'équipe de géographes a réalisé une analyse in situ. Et finalement, au total, ils ont caractérisé 24 unités paysagères différentes qu'ils ont regroupées en 7 grandes familles, chacune étant associée à une dominante particulière, dominante végétation, pavillonnaire, collectif, etc. Donc, par exemple, ici, vous voyez que vous allez avoir 6 types différents d'unités paysagères pavillonnaires qui vont correspondre à des densités de bâtiments différentes, des types de végétation à l'intérieur de ces unités paysagères différentes, etc. Et également, une analyse encore plus fine des éléments paysagers le long des circuits qui ont été parcourus par les vélos, afin de caractériser la variabilité qu'il peut y avoir entre... au niveau des interfaces de la chaussée. Donc on peut avoir des combinaisons différentes avec de la végétation, des bâtiments, etc. Et ça peut fortement influencer les mesures. Alors, l'analyse climatique. Donc ici, vous avez une représentation des résultats qui ont été obtenus. On a travaillé durant le mois de juin 2009. On a fait une campagne de mesures lors d'une journée anticyclonique, donc très ensoleillée. Donc une situation où on a vraiment des hétérogénéités thermiques, des contrastes thermiques très marqués. Et on a fait refait 3 fois le circuit dans la journée. Donc une fois à 6h30 le matin, donc au lever du jour. En milieu de journée, donc au moment où on atteint vraiment le maximum de température, et enfin en fin de journée, au moment du coucher de soleil. Et donc le système d'observation température-humidité permettait d'avoir un échantillonnage très rapide au niveau de la mesure, ce qui permet vraiment de caractériser la variabilité spatiale à l'échelle méso et macro. Et on voit ici, vous voyez sur les mesures obtenues, donc le code couleur correspond à l'amplitude des températures. On observe donc sur un seul parcours de mesure des amplitudes thermiques qui peuvent atteindre 3 à 5 degrés, ce qui est du même ordre de grandeur finalement que l'îlot de chaleur qu'on observe à l'échelle de l'agglomération toulousaine. Et donc on a essayé de coupler cette information avec l'analyse paysagère qui avait été réalisée sur ces deux zones ateliers. C'est-à-dire qu'on a, pour chaque unité paysagère identifiée, on a calculé les températures collectées par les vélos lorsqu'ils ont traversé l'unité paysagère considérée. Et ici, vous avez un graphique qui représente donc les températures observées pour chaque unité paysagère. Et donc pour les unités, les codes couleurs, vous avez en rouge les unités paysagères à dominante centre ancien ou collectif, en violet dominante pavillonnaire et en vert végétation. Et j'ai essayé de classer ces unités paysagères en fonction de leur degré de végétalisation et en particulier de la présence d'arbres. Et donc la première chose qu'on voit, c'est que typiquement, plus c'est bâti, plus c'est chaud et plus il y a de végétation, en particulier arborée, plus on observe des températures plus fraîches. On a quand même des comportements un petit peu inattendus. Par exemple, ici, vous avez une zone classée comme dominante collective, mais qui est quand même beaucoup plus fraîche que les autres, puisque dans cette zone, on a observé en fait des grands immeubles avec au centre un parc. Donc on voit que là, on a vraiment une signature particulière. Donc on voit notamment un intérêt en termes d'aménagement urbain, puisqu'on voit qu'en rajoutant des parcs, on peut observer... des températures plus fraîches.
Bon, je vais passer. Donc, parallèlement à ce travail, nous avons conduit une enquête qualitative par entretien, donc auprès d'une soixantaine d'habitants de ces deux zones ateliers dans le périurbain. Nous avons organisé le guide d'entretien selon 4 items. Le premier portant sur les référentiels climatiques et la manière dont ils se construisent. Le second sur visait à essayer de comprendre les modes de régulation que mettaient en place les individus pour atteindre un meilleur confort climatique. Le troisième item porte sur les représentations que peuvent avoir les personnes sur les microclimats urbains. avec l'idée de voir si on peut établir même des cartographies en fait hein, de ces représentations de microclimat. Et enfin, le troisième item, c'est la sensibilité à l'enjeu du changement climatique et les pratiques qui y sont associées. Hein, nous savions, en conduisant donc ce type d'enquête, que nous allions être rattrapés par la question du changement climatique. Et nous avons préféré l'anticiper et la prendre en compte en amont. Alors, quelques éléments de résultats de cette enquête concernant la construction des référentiels climatiques des individus. On s'aperçoit qu'il faut prendre de la distance par rapport à la question de départ hein, qui portait sur finalement est-ce que la variabilité climatique fine à l'échelle urbaine est perçue par les habitants ou pas, puisque finalement on a un mode de construction très complexe de ces référentiels climatiques qui mettent en jeu d'abord des corps sensibles. Qui sont sensibles à la température, mais pas seulement, peut-être même encore plus à Toulouse, à d'autres éléments, notamment le vent, l'humidité, la lumière, donc des éléments que nous n'avions pas pris en compte hein, dans le cadre de ce projet. Une sensibilité pas tant aux températures absolues, mais plutôt aux écarts et aux contrastes de température, que ce soit des contrastes saisonniers, mais surtout aussi des contrastes journaliers, perçus en général de manière négative. Des capacités aussi de thermorégulation qui sont très différenciées et dans lesquelles intervient très fortement la question de l'âge. Et nous sommes là dans du périurbain où donc on a un profil de population plutôt âgé. Donc, à côté de ces expériences qui mettent en jeu le corps, il y a aussi des mises à l'épreuve, finalement, de la relation que l'on entretient autant qu'il fait, avec un usage très important d'outils de médiation, tout ce qui relève des instruments de météo dans ce périurbain, pour arbitrer, pour vérifier, pour mettre à l'épreuve le discours scientifique des météorologues hein, sur les prévisions, etc. Et puis, une mise à l'épreuve aussi qui passe par des apprentissages et une attention qui se construit à travers des activités quotidiennes, notamment liées au déplacement. On est dans du périurbain avec beaucoup de navetteurs donc, qui se déplacent vers le centre-ville et ou aussi des personnes retraitées qui, par exemple, pratiquent le jardinage. Et toutes ces activités quotidiennes sont l'occasion d'apprentissage et de mise à l'épreuve, finalement, du temps qu'il fait. Donc, tout ceci pour dire que finalement, l'expérience du temps qu'il fait est une expérience qui est à la fois sensorielle, mais aussi cognitive. Elle est singulière et relative, et elle est quotidienne et discontinue. Et on a une perception des variabilités qui est relative, surtout du point de vue spatial, avec notamment une perception assez bonne des variabilités entre le centre-ville et le périurbain, mais en revanche une très faible perception des différences entre des zones périurbaines parce que justement on n'a pas les situations ad hoc qui permettent de saisir ce type de variabilité. Ça ne correspond pas à des activités. Finalement, la relation au temps qu'il fait met en jeu une expérience globale de l'environnement. Hein, quand on parle, quand on demande aux gens est-ce qu'il fait beau ici, oui, il fait beau, il fait chaud, mais il y a aussi, on dit tout de suite, il y a des arbres, il y a les oiseaux qui chantent. Tout cela pour vous dire que finalement, on a une perception du temps qu'il fait qui est totalement indissociable de la perception de l'environnement plus large. Et en fait, on peut parler donc d'une sensibilité aux ambiances. D'une expérience qui n'est pas isolée hein, du temps. Concernant la question de l'adaptation et des dispositifs de régulation, qui était donc le deuxième item, donc cela passe par d'abord une action sur soi, avec une très forte injonction des individus à adapter d'abord son corps, mais aussi donc l'action sur le logement, que nous avons pas mal interrogé. Et là, on s'aperçoit qu'on a des savoir-faire en matière de régulation climatique du logement qui se construisent au fil des expériences. notamment la question de la relation des rythmes de la journée, de l'adaptation des activités de la journée au temps qu'il fait, etc. Et l'usage des différentes parties du logement en fonction du temps. On a une réactivité assez importante aux phénomènes climatiques exceptionnels, notamment la canicule de 2003, qui a engendré donc des actions d'adaptation sur les logements, sachant qu'on a une population donc plutôt âgée, avec de nombreuses personnes qui se sont équipées en climatisation, mais dont une grande partie regrette finalement cet équipement qui s'avère pas utile finalement, qui leur a pas servi par la suite. Et le fait d'habiter dans le périurbain finalement, on a un agir sur le logement qui est très contraint. Un agir très contraint donc sur le logement en raison des coûts des équipements qu'il faudrait mettre en place liés donc à l'isolation, etc., l'amélioration de l'isolation et aussi un manque de connaissance des dispositifs techniques qui permettent cette action sur le logement. Et enfin, on a une très forte inertie qui est liée tout simplement à des personnes vieillissantes dans des quartiers donc vieillissants. Alors, on a interrogé la question de l'agir, la possibilité d'agir à une plus vaste échelle, une échelle qui dépasse le logement. Et là, on s'aperçoit que les personnes identifient très peu de prises, finalement. On ne sait pas ce qu'il faudrait faire à l'échelle plus large pour améliorer le confort climatique. Cette question apparaît un peu par défaut à travers une perception qui est négative du renouvellement urbain. On a deux zones qui sont touchées de manière différente par le renouvellement urbain. Et en fait, l'argumentation climatique est utilisée pour s'opposer à la question du renouvellement urbain et à la densification des quartiers. Voilà. Et on s'aperçoit que finalement, dans ces quartiers périurbains, on n'a pas un sentiment d'inconfort climatique marqué. C'est pour cela qu'on n'a pas de dispositif de régulation qui dépasse simplement le corps, l'action sur soi et l'action sur son logement. Si j'ai deux minutes, je conclurai sur le dernier élément, donc sur la manière dont le souci climatique, le souci du changement climatique s'exprime dans ces quartiers. Alors, très clairement, on s'aperçoit que le changement climatique relève du registre de la croyance. On croit ou on ne croit pas donc au changement climatique, mais même, en même temps met en jeu des épreuves de vérité. Alors, on a des discours experts qui sont diversement reçus, plutôt avec confiance s'agissant du discours des scientifiques, avec défiance s'agissant des discours des politiques et des institutionnels. Ce que l'on retrouve très fréquemment, c'est la vérification par l'expérience personnelle, hein, la mise à l'épreuve personnelle à travers ses propres observations, donc de la validité de cette question du changement climatique. Alors, on a exploré les formes d'engagement. Comment est-ce que les gens s'engagent ou pas? Pourquoi ils s'engagent et comment ils le font? Et là, on s'aperçoit que quand on interroge sur les gens sur ce qu'ils font pour en faveur du climat, on glisse très vitement sur ce qu'ils font en général pour l'environnement. Ce qui apparaît aussi très fortement, c'est les contraintes dans lesquelles se trouvent les personnes du fait de cet habité périurbain, notamment en lien avec la question des mobilités, le fait de ne pas pouvoir se passer de sa voiture. On retrouve donc ce sentiment de confort climatique qui inhibe finalement l'engagement en faveur du climat. Au niveau des responsabilités et des niveaux d'action, la plupart des gens réfutent la responsabilité individuelle et rejettent très fortement les discours culpabilisants. Et ils renvoient vers des la possibilité d'agir vers des échelles supérieures. C'est l'ONU, c'est l'État français, c'est l'Europe, etc. Et en revanche, une forte attente de dispositifs d'action à condition qu'ils soient pris en charge à une échelle collective. C'est-à-dire ne pas se retrouver seul face à ce problème, mais on nous cite souvent l'exemple du tri sélectif qui marche bien, parce que c'est pris en charge de manière collective. Voilà. Donc, pour conclure là-dessus, on va dire l'attention finalement au temps qu'il fait convoque de manière systématique l'enjeu du changement climatique, même si cet enjeu-là, finalement, a du mal à s'individualiser à cette échelle locale par rapport aux autres enjeux environnementaux, hein, en particulier lorsqu'il s'agit de passer à l'action. Voilà, je vous remercie.